Quant à Sophia, eh bien, elle va nous parler d'un film qui était en compétition à Cannes, c'est Eddington. Mais nous commençons... Je suppose que ça suffira. Et je pense que j'avais fait tous les lancements. Ouais. Ok. Quant à Sophia, qui n'a pas pu être avec nous dans les studios, elle nous parlera d'un film qui était en compétition à Cannes, c'est Eddington.
Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama, saison estivale.
Y a des soleils, y a des nanas.
Cinérama l'été.
On va s'en fourrer jusque-là.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Cinérama l'été, on se passe de l'actualité.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue à Cinérama l'été. Cinérama l'été, eh bien, c'est une émission qui n'est pas comme celle de toute l'année. C'est-à-dire que nous avons deux séries que nous vous proposons au cours de cet été 2025. Il y en a une sur les bandes originales de films. Alors, on travaille par décennie selon les émissions. Et pour cette émission, ce sera eh bien, la décennie 90-99. Donc, blind test, il faudra découvrir eh bien, cinq bandes originales de films. Et puis toi, Guillaume, tu as entamé une série sur un réalisateur français.
Oui, que j'aime partout particulièrement. Et on va continuer avec le Schpounz aujourd'hui, parce que vous l'avez compris, c'est sur Marcel Pagnol.
Et puis, on a une toute petite partie aussi actualité, et tu nous parleras d'un film qui est dans les salles.
Oui, The Last Stop to Yuma County.
Mais nous débutons avec le blind test, concernant les bandes originales de films.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie, tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Donc, le principe, il y a cinq extraits à deviner. Ce sont des films qui sont sortis entre 1990 et 99. Et ce sont plutôt des compositeurs emblématiques de cette période, tout du moins. Premier extrait. Alors, c'était facile.
C'est l'un des chefs-d'œuvre de Jerry Goldsmith. C'était pour Basic Instinct de Paul Verhoeven.
Oui, film de 1992. La musique d'ouverture de Basic Instinct joue un rôle central dans la mise en tension du récit. Le thème à la fois fluide et menaçant accompagne les jeux de manipulation de pouvoir entre les personnages. Goldsmith utilise un motif orchestral ample et trouble qui annonce dès les premières secondes l'ambiguïté morale et sexuelle du film, évidemment. Deuxième extrait de ce blind test, une bande originale d'un film entre 90 et 99. Alors, c'était pas trouvé, mais on en a discuté hors antenne, je t'ai donné des indices.
Eh oui, tu m'as donné le réalisateur et ça m'a fait-il, c'est L'Amant,
oui.
C'était composé par Gabriel Yared.
Eh oui, et pour ce drame intimiste inspiré de Marguerite Duras, Yared compose une musique lente enveloppante qui souligne la dimension sensorielle du récit. Alors le thème principal mêle cordes et piano plutôt avec sobriété, et puis ça accentue le contraste entre l'intensité de la relation vécue et la distance imposée par la narration. Et tout cela s'intègre parfaitement à l'image de ce film donc de Jean-Jacques Annaud de 1980. 1992. Allez, encore un facile, aussi facile que Basic Instinct, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas trouvé. Je pensais que ça serait trouvé parce que quand il y a un piano dans une gare, c'est des choses qu'on entend habituellement. Et puis,
c'est pas faux.
Il y a Tiersen et il y a ça parmi les choses qui sont extrêmement reconnaissables, je trouve, dans les morceaux de piano. Alors, c'est un film qui est sorti en 1993 d'une réalisatrice.
Ah, c'est la leçon de piano, oui. Alors c'est les Jeunes Campions.
Eh oui. Donc, film sorti en 93 et la bande originale est composée par Michael Nyman. C'est un thème qui repose sur une structure répétitive au piano. C'est proche du minimalisme et ça reflète l'intériorité du personnage principal. La musique, évidemment, occupe une place centrale dans le film car le piano, est le principal mode d'expression de l'héroïne. Et le morceau est à la fois narratif et émotionnel. Alors moi, je sais que quand je l'avais entendu, ce morceau de Michael Nyman, déjà, je m'étais intéressé à Michael Nyman et puis ensuite à Philip Glass parce que je recherchais ces musiques minimalistes. Et j'aurais pu mettre d'ailleurs un Philip Glass, mais j'ai décidé de ne pas le mettre dans ces blind tests.
Vous pouvez avoir la BO de Candyman, 92.
La BO de ?
De Candyman. Sa seule BO de film d'horreur. Lui-même ne comprenait pas pourquoi c'était intéressant de faire cette BO, mais il s'est laissé convaincre et c'est une parmi ses BO les plus mémorables des années 90.
Mmh. Allez, un nouvel extrait, donc une bande originale de film de la décennie 90-99. Alors, non, un peu moins.
99.
Ouais. Enfin, j'espère. Hein. Ouais. Donc, c'est trouvé.
Alors, si je ne me trompe pas, c'est Randy Newman ou Thomas Newman. C'était pour la BO, oui. En tout cas, ça c'est sûr, d'American Beauty, oui. De Sam Mendes.
Et c'est bien Thomas Newman. Ce morceau illustre l'approche singulière de Newman, faite de motifs simples et épurés. Alors, il donne une tonalité introspective au film en soulignant l'ennui, la frustration ou les moments de bascule. Alors, c'est basé sur quelques notes de piano, hein, ce thème, et une nappe de synthé un peu discrète. Et puis, ça accompagne les scènes les plus contemplatives de ce film mémorable de 1999.
Oscar, je crois, hein.
Ah, je sais pas.
Ouais.
Je n'ai pas l'info.
Il a eu pas mal de récompenses à sa sortie.
Allez, dernier extrait de ce blind test. Alors, c'est pas trouvé ici en studio.
C'est très joli, mais non, je botte en touche là.
Alors, c'est une compositrice.
Ouais.
Et le titre du film, c'est le prénom d'une jeune fille. C'est Emma, film de 96. Et
c'est Anne Dudley ?
Non, la compositrice, c'est Rachel Portman.
C'était très joli.
Le thème principal de Emma est représentatif donc du style de Rachel Portman, mélodique, structuré et accessible. Il installe une atmosphère légère, propre à la comédie romantique d'époque, tout en respectant le ton ironique et tendre du roman de Jane Austen.
Ça ressemble beaucoup aux BO qui sont faites à cette époque, adaptées de films de littérature anglo-saxonne, surtout anglaise. Je pense beaucoup aux films de Kenneth Branagh, par exemple, si on écoute les BO de Patrick Doyle, c'est très très similaire pour Raison et Sentiment, aussi pour tous ces films-là.
D'accord. Merci pour la précision, sachant que c'est intéressant de jouer avec toi à ces blind tests parce que tu es un fin connaisseur des bandes originales de films.
J'ai quand même quelques trous, comme vous avez pu l'entendre.
Allez, on se quitte avec un extrait. Alors oui. On se quitte avec un extrait d'un morceau mémorable, c'est celui de James Horner pour Titanic. Ouais, tu le passes un tout petit peu, puis... Voilà, morceau qui a marqué son époque, c'était James Horner pour Titanic. Ah merde, j'ai pas noté le film. T'as dit que c'était sur quoi ?
Le mien ?
Oui.
Le film d'actu ?
Non.
De Pagnol ?
De Pagnol.
C'est le Schpoons.
Ah, le Schpoons. Tu passes l'extrait mémorable où Fernandel...
Tout condamné à mort aura la...
Bah, je sais pas, il y a un extrait mémorable non. Où il fait... Il fait
une réplique avec plusieurs intonations. Ouais. Mais c'est ça, je le passe pas, non. J'ai fait exprès.
Ah, zut.
Parce qu'il y en a tellement que... Okay. Mais tu peux commencer par ça, toi.
Ouais. Bah, par commencer par ça. C'est-à-dire dire que tu le fais pas, oui, que tu passes
non,
pas.
Non, mais tu veux dire, je sais pas, tu peux commencer par... Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Ah, mais je me souviens plus que c'était ça, d'ailleurs... Ah oui.
Un extrait du code pénal.
Allez, nous passons à la deuxième série estivale de Cinérama. Elle concerne Marcel Pagnol et aujourd'hui tu vas parler d'un film, c'est le Schpoons avec Fernandel. D'où est extrait, d'où est tiré un extrait mémorable avec Fernandel qui interprète une seule réplique de différentes manières, mais c'est un extrait que tu ne diffuseras pas.
Non, tout condamné à la tête tranchée, j'ai fait exprès de ne pas la mettre.
Voilà, à vous d'écouter.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Après avoir parlé de La prière aux étoiles, nous restons dans le domaine du cinéma contrarié. Alors cette fois, ce n'est pas au sein même de la confection du film, puisque celui dont il est question a non seulement bel et bien été réalisé, mais a en plus été un triomphe dont l'aura persiste encore aujourd'hui. Non, quand j'évoque un cinéma contrarié, j'évoque celui d'Irénée, un homme qui se pense fait pour le cinéma, mais qui va se rendre compte que le monde du spectacle est différent de celui qu'il imagine. Alors nous allons bien sûr parler du Schpoons, ou l'envers rêveur d'un décor plus encore plus factice qu'il n'y paraît. Donc là, extrait. En 1938, Pagnol est conscient de l'extrême popularité que lui prodigue le cinéma. Il décide de le célébrer tout en dénonçant le miroir aux alouettes qu'il représente tout autant que l'intérêt parfois fumeux qu'il suscite chez les gens. C'est donc dans ce contexte que naît le Schpoons, un film drôle mais aussi lucide qui, sous ses dehors de comédie populaire et sa poésie inhérente à son auteur, sert une véritable déclaration d'amour au cinéma et à ceux qui y croient trop. Le Schpoons raconte l'histoire d'Irénée Fabre, un jeune épicier de village interprété par Fernandel. Irénée rêve d'être une grande vedette de cinéma, mais il est naïf, maladroit et un peu niais. Alors du moins, c'est l'image qu'il suscite chez les autres. Un jour, une équipe de tournage passe dans le coin. Les techniciens, moqueurs, décident de se payer sa tête en lui faisant signer un faux contrat. Irénée, persuadé d'avoir été découvert, monte à Paris et commence alors une odyssée à la fois pathétique et drôle où l'illusion du cinéma se heurte à la réalité du métier. Deuxième extrait. Le Schpoons, c'est un grand film sur le cinéma, justement parce qu'il en montre l'envers du décor. Les faux castings, les techniciens farceurs, les rêves de gloire déçus, les figurants méprisés. Et pourtant, à la fin, c'est le rêve qui gagne, ce rêve que l'on croyait naïf, risible, en un mot, impossible. Alors, je précise impossible pour les gens d'en bas, vous l'aurez compris. C'est un rêve qui devient réalité, non pas parce que le héros a changé, mais parce qu'il est resté lui-même. Le Schpoons, c'est littéralement la mise en lumière de Pagnol, de sa façon de faire, l'authenticité qui triomphe de tout. D'ailleurs, le film se base sur une anecdote réelle survenue sur le tournage de Angèle en 1934. Lors des prises de vue extérieures, des curieux venus des villages alentours venaient assister au tournage. Parmi ces visiteurs réguliers, un jeune homme à la présentation, on va dire modeste, tentait de se faire passer pour une personne importante. Et donc, le chef opérateur, qui avait compris et son manège, le surnomma le Schpoons. Alors, ce technicien et son équipe lui firent miroiter une grande carrière d'acteur, allant même jusqu'à lui faire signer un contrat bidon. Le mot qui compose le titre du film a d'ailleurs très certainement été créé par Willy Faktorovitch, directeur de la photographie de nombreux films de Pagnol, qui était d'origine ukrainienne. Il s'est inspiré du mot allemand « spund », signifiant « bouchon », et donc par extension « enfant » ou « homme simplé », facile à duper ou à manipuler. Extrait. Le film brille par sa morale, mais aussi par son thème profondément novateur pour l'époque. Alors, avant Elsa Popine, La fête à Henriette, Boulevard du Crépuscule ou La nuit américaine, il met en scène une mise en abîme. En reprenant une anecdote de tournage, il met en scène une équipe de tournage filmée par la véritable équipe de tournage elle-même, équipe qui est d'ailleurs à l'origine de l'anecdote initiale, Pagnol ayant l'habitude de garder les mêmes techniciens. Mais que nous soyons familiers ou non de l'univers du cinéma, Pagnol touche comme toujours à l'universel. Parce que qui n'a jamais été pris pour un Schpoons, ce simplet aux yeux des autres, et qui ne trouve pas satisfaction dans cette conclusion au format l'arroseur arrosé, elle, intégralement conçue par Pagnol, puisque le Schpoons, hein, le jobastre, le fada, finit par avoir raison dans son insistance et réussit à s'ouvrir les portes des studios pour y triompher comme acteur. Alors, comme le dit René lui-même, moi, je voudrais faire pleurer des gens, et c'est exactement ce que fait ce film. Hein. Il nous fait rire, bien sûr, mais il nous touche directement au cœur.
Merci Guillaume pour poursuivre cette série sur Marcel Pagnol. Nous passons maintenant eh bien, au côté rediffusion qui s'ajoute aux deux séries. C'est la rediffusion d'un des blind tests de l'émission. On en a fait de nombreux et aujourd'hui nous allons écouter un blind test sur Jim Carrey, sur Jean-Paul Belmondo, sur Christopher Nolan, sur les femmes au cinéma, sur Alain Chabat. Voilà. Parce que je ne sais pas la durée.
Enfin, on entend beaucoup.
C'était la rediffusion du... Vous venez d'écouter une rediffusion d'un des blind tests, des nombreux blind tests de Cinérama. On en arrive maintenant à bien au côté actualité de l'émission estivale de Cinérama. Nous allons parler de Last Stop Yuma County. C'est un huis clos sanglant au cœur du désert américain.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit que c'est du cinéma.
Je l'ai chié. Un huis clos sanglant au cœur du désert américain.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit que c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Il y a 31 ans, Pulp Fiction de Quentin Tarantino gagnait la Palme d'Or et achevait de consacrer une nouvelle génération de cinéastes indépendants américains, faits de récits référentiels, hein, malins hein, dans l'utilisation de leur petit budget, axés sur des personnages extravagants et reposant sur de longs dialogues interrompus par de brefs mais intenses explosions de violence. Le résultat inévitable de cette nouvelle vague dont Tarantino était le chef de file est que nous avons vu naître dans les années 90 une multitude de films imitant ce style, hein, des films qui non seulement transformaient l'esthétique et l'ambiance du film noir en de nouvelles formes tragico-burlesques, mais le faisait avec une énergie et un panache que l'on pouvait trouver parfois tape à l'œil, mais que l'on regrette quand même un petit peu beaucoup aujourd'hui, hein, à l'heure où les règles élémentaires de la grammaire cinématographique ne sont plus connues des metteurs en scène et où le plan fixe vide de tout sens et d'énergie a pris le pas hein, sur un découpage plus travaillé, hein, témoignant d'un amour sincère de la caméra.
Extrait.
Oui, ce qui fait la force de The Last Stop hein, in Yuma County, hein, c'est son aspect totalement anachronique. Le film de Francis Galluppi, hein, inconnu, dont c'est le premier long métrage, s'initie une œuvre hein, qui aurait été un hit de vidéoclub assuré dans les années 90. La VHS aurait été soigneusement rangée entre Pulp Fiction donc, hein, et Une Nuit en Enfer sur l'étagère vedette de l'établissement, celle qui est toujours vide pour cause de location intempestive. The Last Stop in Yuma County est un thriller policier en temps réel, se déroulant dans un lieu unique, dans une station-service jouxtant un hôtel. Le tout bah, sous le soleil brûlant de l'Arizona. Comme son pitch et son nom l'indiquent, c'est une pure série B concise, précise et élégamment emballée hein, qui tourne autour d'un braquage de banque qui a mal tourné. La station-service accueille toute une série de personnages qui attendent patiemment l'arrivée d'un camion-citerne pour faire le plein d'essence, mais le problème est que bah, dans ce lieu désertique, il y a non seulement les deux braqueurs de banque recherchés, mais aussi une série de, personnalités hein, qui vont aider à leur manière à faire en sorte que la tension monte et que la situation se dégrade au-delà du consensus. Autre point hein, qui ancre complètement le film dans ce courant des années 90, le fait que l'action se déroule à une époque intemporelle, sans marqueur de temps, à mi-chemin entre ce qui nous rappellerait les années 50 et les années 90 donc. Il n'y a aucun téléphone portable, mais au contraire des téléphones à cadran, des tenues vintage, de vieilles voitures, des coupes de cheveux à la Chris Isaac, tout cela convoque une certaine représentation de l'Americana à la fois sans âge et révolue. Donc extrait... Le style de Francis Galluppi s'impose dès le premier plan. Hein. Progressivement, on passe d'un décor de route désertique que n'aurait pas renié le jeune Steven Spielberg de Duel à la perversion savamment orchestrée de Night Hawks, hein, le plus célèbre tableau d'Edward Hopper, illustrateur d'une certaine Amérique légendaire. Le personnage principal hein, des calques physiques d'Anthony Perkins dans Psychose hein, va précéder hein, la mort en marche et se retrouver malgré lui pris dans un engrenage fatal qui fait basculer Yuma County hein, dans les considérations philosophiques du trésor de la Sierra Madre. Car au-delà du danger immédiat, bah, y a aussi l'argent hein, que ces braqueurs ont caché dans leur coffre et qui s'avère être une tentation redoutable. The Last Stop in Yuma County hein, s'achève d'une manière nihiliste, elle aussi héritière hein, d'un monument des années 50, les EC Comics publiés par William Gaines, hein, dont les Crime Suspense Stories ou encore les célébrissimes Contes de la Crypte et leur chute amère faisaient le bonheur des lecteurs. Et bien franchement, ça fait plaisir.
Eh bien, ce film est projeté depuis le 6 août dans les salles de cinéma françaises. Oh là là, putain, c'est dur. Eh bien, ce film est projeté dans de nombreuses salles.
Oui, projeté au cinéma.
Ouais. Ce film est projeté dans les salles françaises depuis le 6 août. Voilà, on termine, on fait la conclue, sans générique. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec nos deux séries, l'une sur Marcel Pagnol et puis l'autre sur les bandes originales de films, c'est Cinérama, et c'est toujours l'été.